Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment allez-vous?
Mais très bien, je vous remercie. Nous sommes toujours confinés.
Vous avez dit, non. On a pris 2 kilos, je ne vous permets pas de m'inclure dans votre surplus.
C'est une moyenne, donc il y en a qui ont pris plus, d'autres moins. Je ne vous demanderai pas combien non, vous avez pris. Voilà, donc on sera avec François Cros, qu'on avait eu hier de l'IFOP, qui a réalisé ce sondage. Il nous avait dit qu'il voulait bien revenir. Et bien, il va nous raconter un petit peu comment les Français ont vécu ce confinement au niveau du poids. On va être aussi avec le docteur Jean-Michel Cohen dans la durée pour on va s'y remettre un petit peu, on va arrêter le chocolat et puis les choses qui nous ont fait plaisir et puis se remettre un petit peu au régime. Et puis on aura Sylvie Tellier dans quelques instants avec nous pour parler de Miss France 2020 et 2021, comment ça se passe. Elle est tous les jours sur Instagram, elle va nous en parler dans un instant. Commençons avec les audiences. Qu'avez-vous regardé hier soir à la télévision? En tête, c'est TF1 avec la série médicale The Resident. Vous avez remarqué l'accent. 4 309 000 téléspectateurs. C'est tout de même 300 000 de moins que la semaine dernière. Top Chef, 3 734 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. Okay. Ça, c'est grâce à nous, puisque ça se passait chez Hélène Darroze qu'on avait avec nous hier. 100 000 de plus que la semaine dernière et c'est presque plus d'un million que l'an dernier. Donc, le pitivier d'Hélène Darroze a dû régaler nos téléspectateurs. Ouais, c'était très bien. Alex Hugo, 3 174 000 téléspectateurs pour France 2. C'est une valeur sûre. C'était une rediffusion. C'est un score moyen, mais c'est vrai que bon, rediff. Et puis Des Racines et des Ailes, 2 495 000 téléspectateurs sur la Normandie. Claudie, c'est ce que vous avez regardé, c'est cela? Bonjour Claudie.
Oui, bonjour. Absolument. Parce que d'abord, je m'appelle Normand en plus et mon père est Normand. Ah. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment, c'était vraiment d'une beauté extraordinaire, comme j'ai pu le remarquer ici, parce que cette année, la lumière était très particulière et les fleurs débordaient de partout. C'est magnifique, quoi. Vraiment, je regrette qu'il y a peu de gens, parce qu'ils auraient voulu aller partir en vacances là-bas, à mon avis. Ouais. Mais c'est vrai que les pommiers, le lin et beaucoup de choses comme ça font que c'était merveilleux au printemps. Et je vous dis que dans ma région, moi, en Irak, c'était la même chose. Et ça, je l'avais vraiment... Et je me suis pas ennuyée du tout. J'ai fait une très, très bonne promenade. Voilà.
Une bonne promenade. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est moins, mais c'est quand même 2 500 000 personnes. Donc, la Normandie, c'est une idée. Vous avez raison pour partir cet été, puisqu'on a bien compris qu'on allait rester en France. Vous le conseillez. Vous avez un endroit plus particulièrement à nous conseiller?
Oh oui, la Dordogne.
La Dordogne, ah bon, d'accord.
Oui,
en Normandie.
En Normandie, oh, n'importe où. C'est beau partout. Et les gens sont gentils, voilà.
Voilà. Et la Dordogne aussi, voilà. N'oublions pas la Dordogne.
Parce que je suis née en Dordogne aussi. Voilà.
Ah bah, dis donc, vous êtes diverses, vous avez des racines diverses.
Ah oui, bah après j'ai habité Paris, enfin bref, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais voilà.
Non. Donc, donc Des Racines et des Ailes sur la Normandie, ça vous a plu. Merci beaucoup Claudie de nous avoir appelé. On peut noter le bon score de Tous prêts pour la dictée, me dit Rémi Pernelet, hier après-midi sur France 3. 1 753 000 téléspectateurs, c'est 800 000 téléspectateurs de plus que la case habituelle et ça explique la petite contre-performance du film Madame Bovary qui était diffusée à 14h sur France 2 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur cette dictée.
Le lion de Joseph Kessel, Valérie, je ne sais pas si vous avez regardé.
Absolument. Non, je n'ai pas regardé.
Du lion de Joseph Kessel.
Et vous avez tenté la dictée, Gilles?
Oui, j'ai commencé, mais c'est ce que j'ai eu Rémi avec qui j'ai échangé. Oui. Je pense que Rémi son Pernelet. Fils a fait moins de fautes que le mien, hein, Simon.
Que votre fils, vous n'avez pas de fils.
Non, j'ai pas de fils. Je parle du fils.
Et Simon, il a réussi alors?
Simon a réussi, mais c'était vraiment très compliqué. Et moi, j'étais sauvé par un appel d'M6.
D'accord. Et à noter, moins bonne performance pour Quotidien hier, qui avait Michel Hazanavicius et Nicolas Hulot. On va en reparler à 11h. 1 785 000 téléspectateurs. Qui veut gagner des millions marche plutôt pas mal. 2 266 000, mais il est dépassé par Cyril Lignac et Tous en cuisine. Voilà. Voilà, vous vouliez nous faire un petit conseil de.
Oui, je voulais vous parler parce qu'on est un peu en manque de sport. Et alors, il y a deux choses qui cartonnent en ce moment et je voulais faire un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la série sur Netflix de Last Dance, qui est une série documentaire sur le basket, sur la NBA et qui est consacrée aux Chicago Bulls de la saison 97-98 avec la star Michael Jordan. Eh bien, ce soir, c'est du basket français qui est mis à l'honneur sur l'Équipe TV. C'est un film qui s'appelle La Légende. C'est réalisé par Florian Essig. Et alors, c'est un film assez incroyable parce qu'il y a peu de films français sur le sport. C'est sorti en juin 2018.
Sur ce sport-là, oui.
Sur ce sport-là, Sud Radio était partenaire du film La Légende. Ça a été tourné à Angers. Et c'est donc une plongée dans l'univers de sport haut niveau. Et donc, c'est ce soir à 21h sur l'Équipe TV. Ça raconte l'histoire d'un basketteur professionnel qui veut tout faire pour faire partie de l'équipe de France.
Champion,
c'est un peu pour devenir champion. Il va avoir une blessure qui va l'empêcher et il va tomber dans des drogues, dans pas mal de choses. Et c'est un film assez étonnant dont Sud Radio est partenaire. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. À regarder.
Très
ce
bien.
Soir sur l'équipe.
Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Ah Valérie, c'est l'image du jour, notre président, les manches relevées en plein brainstorming sur la culture exaltée, mais qui, à défaut d'idées, compte sur la créativité de nos talentueux artistes.
Et ça doit être ça, notre travail ensemble. Et c'est pas que des lois, c'est pas que de l'administration, c'est là où le génie français doit se faire. Et partout, ce que je dis là est vrai partout dans la société. Comme on a eu peur, on est trop dans un, je trouve collectivement, dans un débat qui oublie le bon sens et la créativité. Et le génie français, c'est le bon sens et la créativité.
Bah, je pense que vous aurez du bon sens et de la créativité
voilà,
dans votre débat.
Je pensais que vous auriez relevé la phrase sur les apprenants, qu'ils voulaient que nous ayons un été apprenant. Donc ça fait beaucoup réagir et beaucoup sourire sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit, moi je boirais du rosé et je n'ai pas envie d'un été apprenant. Voilà. Mais c'est vrai que sa prestation manche relevée est très exaltée, a suscité énormément de commentaires.
Et puis finalement, derrière le pangolin se cacheraient plutôt des sportifs. Alors c'est aussi l'info du jour. Le virus aurait eu une diffusion mondiale après le retour d'athlètes ayant participé aux Jeux militaires de Wuhan en octobre 2019. En tout cas, la championne olympique Élodie Clouvel est tombée très gravement malade à son retour.
Il s'avère qu'après ces Jeux mondiaux militaires, on est tous tombés malades. Enfin, c'était trop bizarre, j'avais eu des trucs que j'ai pas eu avant et... On ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'on n'en parlait pas encore. Et il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires notamment qui ont été très malades. Et on a eu contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit « je pense que vous l'avez eu ».
Alors cet enregistrement a été effectué en décembre parce que désormais les athlètes ont interdiction de parler par l'armée française. Mais évidemment, ça fait du bruit. Puis il y a également beaucoup de cas aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de cet
absolument.
Athlète qui est accusé d'avoir amené le coronavirus aux États-Unis. Et puis cette vidéo, il y en a beaucoup d'autres qui montrent comment les magasins Édouard Leclerc ont réétiqueté les emballages de masques, les ont reconditionnés et ont fait augmenter leur prix. Écoutez.
Bonjour à tous. Alors voilà, donc ce matin, j'ai été à Leclerc Saint-Amand-les-Eaux pour aller me fournir en masque pour me protéger du Covid-19. Il y a quelque chose qui m'a énormément interpellée. Donc là, on voit l'étiquette ici. On en voit une deuxième là. Ça, c'est trompeur. Il faut se méfier. Et j'ai bien fait de me méfier. Parce que là, on voit le premier prix. Enfin, le prix à 6 euros. On voit bien aussi que ça a été étiqueté aujourd'hui. Et quand on enlève l'étiquette, hop, le prix à 3 euros. Donc, on passe de 3 euros à 6 euros.
Voilà. Hier, Vincent Lindon pour Mediapart est monté au créneau pour s'exprimer sur la situation en France et la gestion du Covid-19 par le gouvernement. C'est déjà plus de 2 millions de vues.
Mais comment avons-nous pu en arriver là, à cette situation inédite, littéralement stupéfiante? Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse? Le confinement. Nous qui, au début des années 2000 encore, pouvions nous enorgueillir d'avoir le système de santé le meilleur du monde. C'était avant.
Et puis, il y a des choses qu'il ne fallait pas offrir à ses enfants avant le confinement. Vous allez voir que... Excusez-moi, j'ai un trou. Vous
oui.
allez voir que Danny Boone
en même temps.
A offert un petit cadeau à son fils avant le confinement.
C'est d'avoir offert aux enfants, juste avant le confinement, une batterie.
Papa !
Oui ?
T'écoutes
pas ? Si, je fais que ça.
C'était peut-être pas la bonne idée d'offrir une batterie à son fils à ce moment-là.
Il y a eu quelques petits trucs comme ça. Il y a eu quelques, je sais pas si vous avez vu des enfants qui apparaissent. Il y a même en Angleterre, je crois, une femme nue qui est passée derrière un intervenant à la télévision. Bah, comme quoi, il faut faire un petit peu attention. Alors, est-ce qu'on a Sylvie Tellier ou pas? Non, on n'a pas Sylvie Tellier. Voilà, alors, ce sont les aléas du direct. Vous nous dites tout, Sylvie.
Bah, elle essaye de. Bon. Pourtant, elle est disponible parce que je suis en train d'échanger. Bon. Je viens de renvoyer quelque chose à notre réalisateur.
On va marquer une petite pause et puis on se retrouve avec Sylvie Tellier dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Alors, on attend Sylvie Tellier. On a des petits problèmes de. Vous avez des petites infos pour nous
Alors, attendez,
Vous cherchez ?
Non, je ne cherche pas, mais comme j'écris en même temps au téléphone, enfin sur mon téléphone, c'est un peu compliqué.
Un peu compliqué, mais... voilà, vous vivez tout en live, on fait tout nous-mêmes, on parle à l'attachée de presse de Sylvie Tellier qui dit qu'elle est disponible, mais on n'arrive pas à la joindre, donc, c'est compliqué, voilà. À signaler que le Parisien va être vendu lundi avec un masque confinement, le journal Le Parisien va proposer une édition spéciale et va proposer un masque si vous allez en kiosque acheter le journal. Alors je pense que beaucoup de Français ont tenté de se procurer des masques, mais c'est vrai que c'est une bonne initiative. Ça se fait beaucoup en Italie. À signaler que le New York Times, puisqu'on parle de presse, a enregistré un record d'abonnement au net en ligne sur 3 mois et a doublé son trafic en mars. Beaucoup de gens avaient besoin d'informations et c'est vrai que certains sites ont très bien fonctionné. Donc c'est vrai que la presse numérique a bien fonctionné. Gilles, une petite
info. On a Sylvie Tellier, je crois que c'est bon.
Ah, on a retrouvé Sylvie Tellier. Sinon, Rémi Pernelet était prêt à intervenir. Mais voilà, vous vivez
Merci
tout
Rémi.
Avec nous en direct. Sylvie, bonjour.
Bonjour Valérie. Bah,
Vous êtes où? Vous êtes en Polynésie?
Pas du tout. Je suis à Paris et j'étais devant mon petit téléphone depuis 10 heures. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui n'a pas dû marcher.
Bon, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation. On vous retrouve tous les soirs à 17h30 sur Instagram. Vous animez les Miss s'invitent avec le générique évidemment cultissime des Miss France. Racontez-nous un petit peu votre confinement. En tout cas, j'ai regardé vos Instagram. Vous en avez ras le bol du confinement.
C'est un peu ça, oui. Bah, confinement parisien avec mon mari et mes 3 enfants depuis, je sais même plus, 50 jours, 47, j'en sais rien.
53, je crois.
Voilà, ouais. 53. Un peu comme toutes les familles, je pense. Hein, on essaye de s'organiser entre télétravail, les enfants, faire les devoirs, les cours. Et puis oui, des lives parce que je voulais garder contact avec mes miss et puis je trouvais que c'était un bon moyen d'en recevoir une tous les jours pour qu'elles nous racontent leur confinement puis revenir sur l'année de Miss France.
Oui, c'est très sympa parce que vous en découvrez certaines. Vous racontez, par exemple, que vous avez redécouvert certaines d'entre elles puisque vous n'étiez pas à la tête du comité Miss France. Donc, vous racontez comment elles sont parvenues. Comment vous avez eu cette idée de ce live? C'est parce que vous vous ennuyez ou ça vous est venu naturellement?
Non, bah en fait, dès qu'on a été confinés, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient présentées sur les réseaux. J'ai commencé à suivre l'émission d'Arthur, The Show Must Go On, que je trouvais très sympa. Ouais. Et voilà, nous, c'était pas possible, moi, d'en réunir 4-5 autour d'une émission. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien de créer un tête-à-tête. Effectivement, j'en ai redécouvert certaines. J'ai appris que, par exemple, Nathalie Marquet ou Peggy Dlotowski, à leur époque, on gagnait pas sa couronne, qu'il y en a d'autres, qui ne vivaient pas à Paris toute l'année. Et puis elles vivent chacune de leurs anecdotes et tout. C'est quand même très sympa.
Et puis, alors vous faites une audience, vous cartonnez, c'est-à-dire que là, je vois 45 000, 48 000 vues sur Instagram. C'est vraiment un carton. Vous faites plus que même certainement que certaines émissions sur certaines chaînes. C'est un vrai carton. Pardon, Gilles, je vous ai coupé la parole.
Non. Moi, je voulais prendre des nouvelles de Clémence, parce que la pauvre Clémence qui a été élue Miss France, ouais, absolument Miss France 2020, eh ben, elle a eu deux mois et demi pour régner, et puis ensuite, allez hop, confinée, ça doit être dur quand même pour elle.
Alors, Clémence, bon, déjà, elle comprend très bien que c'est sont des mesures obligatoires nécessaires. Après, pour être parfaitement honnête, vous savez, généralement, le mois de mars, mois d'avril, quand on est Miss France, c'est un petit peu calme. On est un peu fatigué, justement, de ces quatre premiers mois de règne. Elle, bon, moi, je lui ai présenté comme ça. Je dis, écoute, on a eu la chance au moment où on a été confinés. Je venais de la renvoyer quelques jours chez elle en Guadeloupe. Donc, elle a pu rester auprès de ses parents au soleil, en Guadeloupe, en famille. Je lui ai dit, écoute, profite. T'auras peut-être pas de vacances cet été, du coup, parce que l'activité va reprendre, j'espère, va reprendre très, très vite. Donc, elle a pu se ressourcer, elle a pu également, elle crée des choses sur les réseaux. Elle nous fait des cours d'histoire, parce qu'elle est étudiante en histoire de l'art. Ouais. Voilà, c'est...
elle a une émission sur une radio en Guadeloupe, hein, je crois.
Oui, elle fait également des chroniques de solidarité sur Guadeloupe la Première. En fait, elle nous raconte, je ne sais pas si vous connaissez ce livre Les Oubliés du Dimanche, par exemple, de Valérie Perrin, mais elle appelle des personnes, bon livre, nos aînés. Ouais. Et en fait, elle nous raconte des histoires, et elle raconte ses histoires à la radio. Voilà, donc oui, c'est une année particulière. Elle aura fait des choses différentes en tant que Miss France, mais j'ai l'habitude de dire que la valeur d'une Miss France, c'est pas on la calcule pas au nombre de kilomètres qu'elle fait, en fait. C'est plus à ses actions, sa personnalité, ses engagements. Et ça serait effectivement la Miss France du confinement, mais en tout cas, c'est une très chouette Miss France, et elle va très bien.
Et comment ça se passe pour les sélections? Parce que là aussi, normalement, il y a des sélections qui se font tout au long de l'année pour la candidate 2021, pour les candidates 2021. Comment est-ce que vous vous organisez?
Alors, nous, on a la chance d'être un programme de décembre. C'est vrai qu'il y a des programmes de télé qui ont été touchés là par le confinement. Ouais. On croise les doigts pour que notre émission de décembre, on puisse la réaliser normalement. En plus, c'est le centenaire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on était dans les sélections départementales. Donc, on les a remplacées, puisque ça a été annulé. On les a remplacées par des castings, on va dire, vidéo. Les jeunes femmes nous envoient leurs vidéos de présentation. Et puis, à l'issue du confinement, eh bien, toutes ces vidéos ont été collectées, redistribuées à nos délégués régionaux. Qui vont ensuite recevoir de visu toutes ces jeunes femmes pour leur confirmer ou non leur inscription pour l'élection régionale qui aura lieu en septembre ou en octobre.
Alors dans cette vidéo, elle c'était que physique ou elle répondait à un questionnaire, elle devait entre guillemets
justement,
se vendre.
On a voulu faire un petit peu Miss France, c'est du divertissement, ça doit rester ludique, léger. Donc on leur a proposé, on a fait un tutoriel avec Clémence Bottineau. On a diffusé ce tutoriel. C'est en fait, il y a trois vidéos, elle nous envoyait une où elle se présente, classique, leur motivation. Une deuxième où on les voit évoluer chez elle, en train de marcher sur une paire de talons pour voir comment elle se débrouille. Et puis troisième vidéo un peu différente, où on leur demande de présenter un savoir-faire. Alors que ce soit un savoir-faire artistique, il y en a certaines qui font des cours de cuisine, il y en a d'autres qui chantent, il y en a d'autres qui lisent des histoires, qui nous font des cours de maquillage. Il y en a vraiment, c'est une façon pour elles de s'exprimer. Voilà.
Et ces vidéos, elles seront diffusées sur... Faudrait les diffuser sur TF1, ces vidéos.
Non, on s'est engagé justement à pas les diffuser parce que je voulais pas que les jeunes femmes se sentent observées, bridées. Voilà. Donc nous, on les regarde au bureau, dans notre bureau virtuel, puisque le bureau Miss France reste ouvert, mais on est en télétravail. Et puis on envoie les vidéos qui correspondent aux critères, parce que je rigole un peu, hein, je dis qu'on va envoyer certaines The Voice parce que parfois les gens n'ont pas le profil, puis c'est rigolo, il y en a qui nous envoient, j'ai même des hommes qui nous envoient des vidéos, ça reste drôle, et en tout cas ça permet un peu de détendre un peu l'atmosphère dans cette période un peu particulière.
Vous êtes sûr qu'il y aura une Miss France 2021?
Ah, moi, je suis sûre qu'il y a Miss France 21. Je rigole, hein, je dis que s'il faut que je le fasse dans mon salon et qu'on soit 10 et que ça soit diffusé en ligne, on le fera quand même.
Oui, il faut de l'énergie, en tout cas, pour effectivement diriger tout ça, ce que vous faites depuis maintenant quelques années. Vous avez toujours la même passion et toujours la même envie de vous occuper de ces Miss?
J'ai la chance déjà d'évoluer dans une équipe super créative, sympa, donc oui, ça donne la pêche, et puis d'être entourée de Miss France qui sont hyper aussi créatives. Là, pendant le confinement, elles ont été très actives sur les réseaux sociaux, que ce soit Laurie Tillman qui fait des cours de sport, Maëva Cook qui nous fait des cours de maquillage complètement hallucinant. Moi, je suis chez moi avec mes enfants limite, là, et je les regarde faire des maquillages tels de Miss Univers, je les trouve, voilà, elles sont fantastiques. Iris Mittenard qui nous fait même des cours de cuisine, des cookies. Voilà, c'est quand même hyper, hyper intéressant et passionnant d'évoluer dans ce métier-là. Et puis, on a la chance de faire un métier très léger. On n'a pas cette chance de pouvoir comme ça aider le pays en ce moment comme les soignants que j'admire. On fait du divertissement. On est là pour essayer de faire sourire les gens et c'est quand même un très beau métier.
Moi, vous avez quand même un petit talent, non? Vous avez peut-être un petit talent, vous, non? Vous faites quoi, de la cuisine, du sport? Vous pourriez faire quoi comme tuto?
J'essaye d'être une bonne maman.
Ah oui, j'ai vu, vous aviez des soucis de rangement de chambre.
Oui, et puis, je sais pas, mais moi j'ai appris vendredi que l'école allait pas réouvrir pour ma petite et mon petit dernier, donc qu'elle est à la crèche. Donc voilà, on essaye de s'organiser et de vivre.
Vous craquez un peu ou pas? Vous craquez un peu?
En fait, j'imaginais pas le déconfinement comme ça. Je pensais qu'on allait reprendre notre activité et tout. Et je vous avoue que parfois, je me demande ce qui nous attend jusqu'à septembre. Mais je suis de nature assez positive. Alors, je craque comme tout le monde. Mais je suis assez positive. Donc, je me dis que ça nous permet de vivre autre chose, des moments avec nos enfants. Moi, je suis toujours partie. Ben là, je profite d'eux. Voilà.
Vous voulez pas qu'on crée, Sylvie, ensemble, Miss Confinée 2020 la meilleure, les meilleurs confinés chez eux. On pourrait faire une élection de Miss Confinée.
On pourrait faire plein d'élections. On pourrait faire les meilleurs cuistots, les meilleurs tutos. Il y a plein de choses à faire.
Voilà, il y a plein de choses à faire. Une question sur les Miss, sur donc ce petit programme Instagram tous les jours. Encore, je rappelle, c'est tous les soirs à 17h30. Qu'est-ce que vous avez est-ce qu'il y a une Miss qui vous a étonné? Vous êtes remontée jusqu'à quand déjà, la plus ancienne des Miss que vous avez réussi à interviewer, c'était qui?
Mais la plus ancienne, j'ai eu Nathalie Marquet, 87, j'ai eu Peggy Zlotowski. Je crois que c'est Nathalie parce que, alors les autres Miss François, elles sont pas à l'aise avec l'outil Instagram. Et j'ai eu 2-3 ratés parce que c'est vrai que c'est nous, on est cette génération Instagram, mais c'est pas évident de faire un live et puis je peux pas aller chez elles pour leur expliquer comment ça fonctionne. Il faut du réseau.
Puis elles sont Miss, c'est pas simple pour elles.
Colline comment? je vois Colline comment? C'était qui?
Corinne comment? 2003. Alors c'était juste après
2003.
Moi.
Ah, d'accord.
C'était après moi. Non, la plus ancienne, je crois que c'est Nathalie Marquet.
C'est Nathalie Marquet, oui. Et elles vous ont fait des confidences étonnantes, certaines d'entre elles?
Oh oui. Alors j'ai eu des confidences justement de Nathalie assez étonnantes où elle m'a raconté que à l'époque il y avait un homme politique. Alors elle a pas cité de nom, mais qui lui faisait du gringue et qui la suivait sur les élections et tout ça. Donc il y a des petites confidences sur la famille de Fontenay aussi parfois un peu croustillantes.
Bon, ben voilà, c'est un très bon teasing. Donc, on vous retrouve à 17h30 sur votre Instagram, Sylvie Tellier, et puis on peut les revisionner toutes ces interviews de Miss. On vous souhaite de bien vous porter, de faire attention à vous.
Aussi, et merci.
Et puis hâte de vous retrouver en décembre. Pardon ? Oui, 100 ans, ça vous avait dit. C'est le centenaire absolument de Miss France cette année, voilà. Merci à vous Sylvie Tellier, bonne journée.
Merci, désolée encore pour le rater, mais je sais pas, le réseau devait pas arriver jusqu'à chez moi.
Jusqu'à Paris, entre Paris et Paris, ça arrivait pas, voilà, parfois. Merci à vous, merci Gilles.
Oui, je vous fais un salut à la Miss France, regardez.
Salut, voilà, très bien, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr. On va parler de toute autre chose. Tiens, j'ai oublié de lui demander si elle était gourmande, Sylvie Tellier. Mais elle a la ligne, je pense pas qu'elle ait pris beaucoup de poids pendant ce confinement. Nicolas Cussac, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes producteur de Bleu d'Auvergne et de Fourme d'Ambert, AOP. Vous avez signé, vous avez alerté sur, avec d'autres producteurs de fromage, sur l'importance de maintenir la diversité fromagère, puisque le Conseil national des appellations d'origine laitière précise qu'il y aurait énormément de surstock en France en ce moment. Quelle est la situation pour vous ?
Alors, bon, merci de m'avoir invité. Et donc, première chose, faut savoir que dès que les premiers jours du confinement sont arrivés, nous, on est producteurs fermiers, on a perdu 90% des parts de marché pendant les 15 premiers jours. Donc, automatiquement, les caves se sont remplies. Et donc, on a pris des mesures très drastiques, très rapides. C'est-à-dire qu'on a arrêté de fabriquer pendant 3 semaines, puisqu'en face, on n'avait plus de ventes. Donc, ouais. Sauf que comme on a les ventes qui remontent, mais qui sont quand même inférieures entre 50 et 60% encore par rapport à N-1 et une année normale, on a quand même un problème de surstock dans nos caves. Et aujourd'hui, c'est un gros problème. Sachant que les produits, pour l'instant, il ne s'est pas jeté de produits. Tout le monde répond de différentes manières pour éviter justement de détruire de produits. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans l'air du temps, et puis c'est surtout pas la volonté des filières, quoi.
Et vous avez la chance que ce soit un produit, encore une fois, le fromage qui s'affine, qui reste en cave, mais enfin, j'imagine qu'il n'y a pas une durée de vie non plus indéfinie. On parle de fromage comme le bleu d'Auvergne, donc le Brucio, le camembert de Normandie, le Cantal, le Chavignol, la Fourme d'Ambert. Il y a combien 1000 fromages aujourd'hui, c'est ça?
Oui, là, voilà. Aujourd'hui, il y aurait encore 1000 tonnes de fromage à évacuer assez rapidement. Ouais. Donc, il faut que tous les acteurs, les metteurs en marché qui vendent aux consommateurs mettent en avant ces produits. Et puis, faut que le consommateur revienne acheter ces produits, prenne plaisir à consommer ces produits. Et puis, pendant le confinement, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à cuisiner, tout ça. Ils peuvent aussi redécouvrir le produit d'une manière différente pour le consommer. Sur tous les sites internet des appellations, on peut trouver des idées recettes, des nouvelles idées de consommation, tout ça. Donc, on peut aussi redécouvrir le produit d'une autre manière.
Et puis de dire qu'il y a une diversité incroyable de fromages, qu'on a en France cette particularité d'avoir ces fromages qui sont uniques au monde, hein.
Ah ben, on a un savoir-faire en France ancestral sur les fromages qui est nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut maintenir, parce qu'aujourd'hui on est dans un tel état d'élabrement dans nos filières, parce qu'aujourd'hui les caves sont pleines, les laiteries ne savent plus quoi faire du lait parce qu'il n'y a pas assez de lait. Comme les caves sont remplies, c'est comme un consommateur qui a son frigo qui est plein. S'il continue d'aller faire ses courses mais qu'il ouvre pas le frigo pour manger, voilà, c'est ce qui se passe dans les caves des fromages aujourd'hui. Donc du coup, tous ces savoir-faire, il ne faudrait pas quand même qu'il y ait des gens qui restent, qui disparaissent et qu'on perde ces savoir-faire.
Ouais. Donc il y a un hashtag qui s'appelle Fromagissons. Donc c'est un collectif pour soutenir les appellations d'origine laitière pendant cette crise. Et puis là, les marchés vont réouvrir, les fromagers vont pouvoir aussi réouvrir. Donc c'est important. Il y a des tas de gens qui vous soutiennent, évidemment des chefs qui appellent à vous aider, à vous soutenir et à consommer, à acheter ces fromages. Hein.
Oui, on voit qu'il y a des chefs, mais il y a aussi des personnalités du sport. On a Bernard Laporte, on a Aimé Jacquet, on a aussi des gens de la télévision, on a Monsieur Lhermitte, Thierry Lhermitte. Donc il y a des personnalités de divers horizons. Toutes les personnalités sont les bienvenues. Et puis les fromageries, j'entends dire que les marchés vont ouvrir, sauf que les gens ont peur d'aller au marché. Nous, on voit qu'on a des clients, ils veulent plus, ils ont peur aussi. Et il y a aussi, faut se dire aussi qu'il y a d'autres systèmes de consommation actuellement qui sont mis en place, y compris par les fromageries dans les villes. Nous, on a des clients fromagers qui ont mis des systèmes de drive, des systèmes de livraison à domicile pour garder la sécurité des gens et pouvoir continuer à vendre nos produits. Et donc, il faut que les gens ils se rapprochent de toutes ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, on peut acheter du fromage en toute sécurité et se faire plaisir quand ça arrive à la maison. Et il faut savoir aussi qu'il y a aussi des expéditions qui se font via nos territoires, en direct, chez les particuliers, via des sites internet.
Oui, et on demandera tout à l'heure au docteur Cohen, parce que vous avez vu que les Français, on va en parler dans un instant, ont pris du poids. On peut manger du fromage aussi, même si ça fait un peu grossir, mais on peut en manger. Il y a des fromages qui sont tout à fait, les fromages de chèvre sont tout à fait régime. Et puis c'est un geste de solidarité. Enfin, je pense qu'au-delà de si on aime le fromage, il faut pas hésiter. Et encore une fois, dire que en achetant ce fromage, on va aider nos fabricants, enfin nos producteurs comme vous qui produisent ces fromages. Hein.
Bien sûr, on va aider tous ces producteurs de lait, tous ces fromagers, et puis on va aussi maintenir des savoir-faire, des territoires, parce qu'aujourd'hui une ferme qui disparaît dans les régions de montagne où sont principalement les AOP, c'est des territoires qui se ferment. Et demain, si les gens veulent continuer à venir se promener dans nos territoires, faire des randonnées, il faut qu'il y ait des territoires qui soient sauvages, mais qui soient aussi entretenus.
Ils continuent, ouais.
Parce que sinon, demain, il n'y aura que de la forêt, il n'y aura plus de vue, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de rando. Ouais.
Voilà, le message est passé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nicolas Cusac. Donc, je rappelle que vous êtes producteur de bleu d'Auvergne et de fourme d'Ambert. C'est très, très bon. Et donc, fromagisson, c'est le hashtag fromagisson. Retournez chez vos fromagers, soutenez les producteurs de fromage qui sont uniques au monde avec des appellations propres à la France. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est une matinée où on parle beaucoup alimentation. Et François Cros, on vous avait promis que vous reviendriez. Bonjour.
Oui, bonjour.
François Cros, vous êtes là. Donc, de l'IFOP, hier, on a parlé de la vie sexuelle des Français. On voulait évoquer avec vous ce sondage qui concerne le poids des Français. Et vous avez mené un sondage sur l'impact du confinement sur le poids et les habitudes alimentaires des Français. Donc, dites-nous un petit peu, à part ces 2,5 kg, ce chiffre qui a beaucoup circulé, le détail de ce sondage.
Alors oui, c'est un chiffre un peu à prendre avec des pincettes. Hein. C'est une enquête qu'on a réalisée pour le site spécialisé Darwin Nutrition, visait un petit peu à mesurer quel était l'impact de cette période qui a été une période de stress et une épreuve psychologique pour quand même beaucoup de Français sur leurs habitudes alimentaires et leur corpulence. Et au total, on a une majorité de Français, 57%, qui déclarent avoir pris du poids depuis la mise en place du confinement, mais aussi, on en a à peu près 30% qui ont aussi perdu du poids. Donc, le 2,5 kg, c'est sur la base des personnes qui ont pris du poids. Donc, c'est pas l'ensemble des Français, c'est ceux qui ont pris du poids, ont pris en moyenne 2,5 kg, sachant que les hommes ont pris un peu plus que les femmes, 2,7 contre les femmes, 2,3. Mais ce qui est logique, et ça avait été d'ailleurs prévu par des nutritionnistes, c'était que, bien sûr, que l'absence de déplacement quotidien, le fait qu'on on a accès à son frigo beaucoup plus facilement qu'à l'accoutumée, mais aussi une tendance au grignotage qui est liée à l'anxiété, au stress, et qui favorise aussi la consommation d'aliments qui rassurent, comme le chocolat, les gâteaux, etc. Et puis, peut-être aussi la plus forte tendance à faire des choses comme des apéritifs ou boire un peu d'alcool à table. Tout ça, c'est des choses qui contribuent à favoriser un accroissement de la masse pondérale des Français.
Oui, vous, dans votre sondage, vous dites aussi que ça a été un sujet de tension conjugale autour de la préparation des repas. C'est vrai que qu'est-ce qu'on mange ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu. Donc ça a été source de conflits.
Alors oui, il y a un conflit sur ce qu'on mange, mais finalement, c'est pas le pire, c'est celui qui fait à manger qui est le sujet de discussion. Ça. Parce que comme vous le savez, dans la division sexuelle du travail domestique, qui est un objet de sociologie depuis des décennies, on sait que l'activité culinaire reste étroitement associée à la féminité, entre guillemets, et ça reste une activité très féminine. En moyenne, les femmes, je crois, passent environ une heure dix contre à peine 20 minutes par semaine pour les hommes à préparer les repas. Et encore, ça, c'est dans une situation où les femmes peuvent externaliser une part des achats. Vous savez, en faisant livrer, en achetant du tout préparé. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une surcharge de l'activité culinaire dans les foyers confinés. Alors même qu'il y a aussi une surcharge des activités autres, comme par exemple s'occuper des enfants, faire le ménage, etc. Ouais. Parce qu'on est tout le temps dans le foyer. Tout ça se traduit par des tensions non négligeables, notamment dans les jeunes couples, sur qui doit s'occuper de faire la cuisine, quoi. Voilà.
Oui. Alors, dans le sondage sur les habitudes alimentaires, on voit que 42% des gens interrogés vous disent avoir consacré plus de temps à la préparation des repas. Il faut dire que les tutos cuisine, les petites vidéos ont fleuri un peu partout sur Internet. Et puis il y a un chiffre également qui est intéressant, c'est les apéritifs avant les repas qui ont visiblement été plus importants qu'avant.
Oui, bah, on a eu beaucoup de papiers d'ailleurs sur les fameux apéros Skype et autres FaceTime qui sont développés notamment chez les jeunes. Pas seulement d'ailleurs forcément pour voir des amis, hein, mais aussi des collègues. C'est organisé dans certaines entreprises et puis c'est aussi parfois organisé avec la famille pour garder du lien ou faire certaines réunions de famille comme les anniversaires. Donc tout ça favorise l'absorption de substances qui, pour des nutritionnistes et des spécialistes, ne sont pas forcément bonnes, puisque on a aussi dans l'enquête une proportion non négligeable de consommation de charcuterie, par exemple, d'alcool
ou
de produits salés, etc. Voilà, mais qui sont qui font du bien sur le moment, mais qui laissent des traces dans le maillot, quoi. Voilà.
Ouais. Et alors, ils n'ont pas vraiment l'intention de faire de régime. Ça aussi, ça fait partie des questions que vous leur avez posées. Est-ce que vous avez l'intention de manger plus sain après le confinement? Donc, 56% vous répondent oui, sans faire de régime au sens strict, et 18% oui, faire un régime. Donc, c'est pas énorme, si?
Alors, non, c'est pas énorme. D'abord, je pense que quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain consensus dans l'opinion sur le fait qu'ils souhaitent manger quand même plus sain après le confinement. Donc, ils ont le sentiment, sans doute, d'avoir fait des écarts non négligeables. Après, le fait de devoir faire un régime, c'est quand même quelque chose de quand même beaucoup plus contraignant, qui est quelque chose qui pèse encore beaucoup sur les femmes. Hein. C'est une injonction à la minceur qui est quand même toujours très prenante sur la jambe féminine. Et in fine, est-ce que aussi le fait que les perspectives de vacances et de la fameuse épreuve du maillot qui favorise, qui incite beaucoup de gens en général à faire le régime, est-ce que ça peut baisser aussi, ça peut inciter justement à désinciter un peu à faire des efforts? On peut se poser la question.
Merci beaucoup. Merci François Croze d'avoir été avec nous et de nous avoir détaillé cette enquête, ce sondage passionnant de l'IFOP. On va retrouver dans un instant, c'est la suite logique, le nutritionniste Jean-Michel Cohen qui va nous donner peut-être quelques petits conseils pour ceux qui ont pris en moyenne 2,5 kg. Allez, à tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez également réagir. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est en ligne avec le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez publié La peur au ventre pour que manger ne soit plus un cauchemar. C'est un livre qui est paru chez Plon. Alors je pense que manger n'a pas été un cauchemar pendant ce confinement. Vous avez peut-être entendu François Croze, on s'est lâché, hein. On a mangé du chocolat, on a mangé des choses qui nous ont fait plaisir. On a des auditeurs qui nous disent oui, d'accord, mais le prix des légumes avait aussi beaucoup augmenté, donc faut pas s'étonner que les gens aient mangé des pâtes. D'abord vous, comment ça va? Vous avez pris 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos? Vous avez maigri?
Eh ben non, moi j'ai rien pris du tout parce que j'ai été très actif pendant cette période et donc j'avais pas de gros soucis, hein, mais donc j'ai fait attention, j'ai mangé convenablement, j'ai mieux mangé que d'habitude d'ailleurs, je dois dire, puisque on avait plus de temps pour préparer à manger et que c'était une activité importante dans la journée. C'est d'ailleurs ce qui a justifié les prises de poids. Il y a eu 3 facteurs qui ont justifié les prises de poids. Évidemment, le stress pour la plupart d'entre nous, parce qu'on le sait, quand on est stressé, on a tendance à utiliser la nourriture comme moyen de consolation. Le deuxième facteur, c'est que c'était devenu une activité. Ça rythmait la journée, la préparation du repas du midi et la cuisine. Et la troisième chose, c'est que c'était un moment convivial. Donc, ça voulait dire que ça flattait un peu l'atmosphère qui n'était pas si joyeuse. Bilan des courses. Les Français sont revenus à la cuisine de façon étonnante, avec vraiment avec joie, ça s'est senti. ils sont revenus à la cuisine, ils ont apprécié le goût des produits frais, ils ont apprécié de faire des nouvelles recettes, ils se sont renseignés partout. Ça n'a jamais été aussi bénéfique en termes de qualité pour l'alimentation. La contrainte, ça a été le fait que, en fait, beaucoup d'entre nous ne mangent pas aussi bien tout le restant de l'année, notamment parce qu'il y avait plus de temps, il y avait vraiment 3 repas complets. Pour les familles, il y avait les enfants, et on sait que les enfants ont un appétit qui n'a pas besoin d'être compté pour la plupart du temps, avec une appétence particulière pour les féculents, les frites, le riz, les pâtes, etc. Donc il y avait plein de facteurs qui faisaient que, confinés dans un appartement, les gens avaient surstocké la nourriture au démarrage. Donc quand vous mettez dans un espace clos beaucoup de nourriture, qu'elle est très attirante, que vous avez le temps de vous ennuyer un peu et que vous êtes stressé, les 2,5 kg sont pas grand chose finalement, puisque ça représente une moyenne, hein. Ça représente
oui,
pas.
Oui, c'est une moyenne.
C'est une moyenne. Il y a des gens qui ont blindé beaucoup plus, qui sont montés jusqu'à 5, 6, 7 kilos. Je le vois sur le site Savoir Maigrir où il y a eu des demandes d'abonnement depuis une semaine qui ont flambé. Et puis certains se sont modérés. L'activité physique, vous connaissez mon opinion là-dessus. C'est pas l'activité physique qui fait maigrir les gens. Elle les aide à maigrir, mais elle les fait pas maigrir. Donc voilà, bilan des courses, un peu plus de poids, les vacances arrivent, les Français reprendront du poids pendant les vacances. C'est la période bénie des nutritionnistes à partir de septembre.
à partir de maintenant. Non, ça c'est maintenant que les gens veulent maigrir.
Il y a juste un facteur positif, c'est qu'on est au mois de mai. Ça veut dire que c'est la période où il y a de l'ensoleillement, où les produits qu'on va trouver sur les étals des marchés, ça va être les meilleurs des produits extrêmement sains, des salades, des légumes, des fruits, qui sont à leur niveau d'excellence particulièrement positifs en ce moment. Donc ça sera la première période. C'est la période de l'année où les Français demandent le plus à maigrir. Donc ça veut dire que de mi-mai maintenant jusqu'à la fin juin, tout le monde va se mettre au régime et ça va plutôt bien fonctionner. Alors après, il y a des erreurs à éviter. La première des erreurs, ça va être ceux qui vont vouloir absolument aller à toute allure pour maigrir. Alors il y a des stratégies pour faire ça, mais il vaut mieux pas les utiliser maintenant. Je sens que ça vous
fait
rire.
Mais
parce que ces stratégies agressives de régime, j'avais mis en ligne à un moment donné deux menus. Un menu confinement qui était un menu fractionné, c'est-à-dire où on fractionnait la nourriture dans la journée, et un deuxième menu que j'ai mis trop tôt, qui s'appelait le régime des œufs, et où on expliquait comment perdre très vite 3 kilos sur une semaine, qui est un régime très dur. Mais ces stratégies agressives, il vaut mieux les garder quand on a suivi une période de stabilité dans le poids. Ça veut dire on commence par rééquilibrer son alimentation, puis après on peut déclencher une période d'une semaine un peu agressive juste avant d'enfiler le maillot de bain.
Oui, donc c'est vous déconseillez, quand on se dit « oh là 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 là, il faut absolument que je perde 3 kilos, etc. », de le faire rapidement, c'est un message qu'il faut vraiment faire passer.
Oui, alors parce que là on a le temps, parce que quand on compare, par exemple, si on fait un régime agressif d'une semaine ou de 15 jours, derrière le mois suivant, il n'y a pas de perte de poids. Ça veut dire que vous allez perdre effectivement 3 à 5 kilos ou 3 à 6 kilos dans un espace de 15 jours. Mais en fait, le mois qui va suivre, vous n'arriverez pas à perdre car le corps rééquilibre la dépense d'énergie, c'est-à-dire qu'il va épargner. Et donc finalement, au bout du compte, vous aurez perdu en un mois et demi entre 3 et 6 kilos. Alors qu'en fait, il vaut mieux le faire avec des régimes.
Oui, des régimes plus équilibrés. Donc le conseil, c'est de rééquilibrer. Ça veut dire supprimer, par exemple, le pain, supprimer l'alcool, commencer par supprimer quelques aliments, mais continuer à se faire plaisir.
Limiter, ça veut dire, c'est plutôt limiter. Ça veut dire que, par exemple, quand vous supprimez une catégorie d'aliments, vous rentrez dans une période de frustration. Les limiter, c'est prendre des petites portions. Les menus types, par exemple, quand on veut perdre de façon intermédiaire, entre rapide et pas trop lent. Le petit déjeuner, pour certains, c'est important. On garde un petit bout de pain, mais on le mesure. On prend un huitième de la baguette. On va pas mettre de beurre dessus. On va mettre un produit avec des protéines pour modérer un peu l'appétit pendant la matinée. Donc, par exemple, une tranche de fromage, 20 à 30 grammes de fromage ou un œuf coq, ça peut être assez agréable. Et si on a envie de grignoter dans la matinée, on va réserver un fruit ou une compote de fruits dans la matinée. Le repas du midi, on va pas prendre de féculents, ça étonne toujours les gens quand je le dis, mais on va se contenter d'une source de protéines. On va pas les limiter pour le moment, parce que justement, on a besoin de satiété, donc on va prendre de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, de la volaille. On va essayer de cuisiner sans matière grasse, c'est là où on peut faire le plus d'économies. Je rappelle qu'un gramme de graisse, c'est 9 calories, un gramme de sucre, 4, et un gramme de protéines, 4. On va faire ça, une bonne assiette de protéines avec une grosse assiette de légumes. Si on est courageux, on prend un produit laitier et un fruit, mais on peut les réserver pour dans l'après-midi. Et c'est le soir où on va prendre un peu de féculents parce que ça apaise les gens, ça améliore le sommeil. On va reprendre des protéines ou alors pour... En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir semi-végétariens. Donc très bien, je rappelle qu'on peut remplacer les protéines par un mélange de légumineuses et de produits céréaliers. Donc on peut très bien faire une assiette de lentilles avec une assiette de riz et puis prendre un bout de fromage et un fruit. Et là, on maigrira, mais on maigrira sans être agressif.
Sans être agressif et sans générer de la frustration. Un mot sur le jeûne qui est très à la mode ou dont on parle beaucoup. Est-ce que ça fait maigrir le jeûne?
Alors, c'est une énorme erreur. Le jeûne intermittent, il y a 4 ans, j'avais écrit un livre où j'avais mis en valeur ce jeûne intermittent qui démontrait qu'une abstinence alimentaire sur 16 heures, quand on faisait un contrôle alimentaire, c'est-à-dire quand on gardait un nombre de calories convenable par rapport à une alimentation où on souhaite maigrir, un jeûne de 16 heures était plus efficace qu'un régime où on répartissait les 3 repas dans la journée. Mais c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pendant les 8 heures qui restent où on peut manger, il faut manger le même niveau calorique que ce qu'on aurait mangé si on souhaitait maigrir. Alors qu'il y a certaines personnes qui ont compris que pendant ces 8 heures, on pouvait faire n'importe quoi. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Le corps humain, il déstocke pas au fur et à mesure, simplement en fonction des horaires. Pendant ces 8 heures, simplement, on a une mobilisation des triglycérides qui est meilleure sur les 16 heures qui restent. Donc ça voulait dire qu'on performait mieux l'amaigrissement. Mais il ne s'agissait pas de ne manger que sur 8 heures tout ce qu'on voulait. Il fallait manger ce qu'on devait manger raisonnablement et faire 16 heures d'abstinence alimentaire. Tous les gens qui font le ramadan à l'heure actuelle, au final, font un jeûne de 15h30. Donc ils maigrissent pour la plupart, sauf s'ils se bourrent de sucre, bien sûr.
Et de choses comme ça. Donc c'est pas je mange pas pendant 16 heures et je vais perdre tout ce que j'ai mangé dans la journée. Donc il faut le maître mot c'est l'équilibre encore une fois, c'est un peu de tout en petite quantité et puis c'était le titre d'un de vos livres, maigrir c'est dans la tête hein. C'est j'ai décidé de maigrir.
Oui, et puis quand j'étais plus jeune à l'hôpital, on disait le régime prudent est raisonnable. C'est-à-dire que les régimes, alors on a retrouvé ce mot de rééquilibrage alimentaire, qui est une façon un peu spécieuse de parler des régimes. Les régimes, ça reste les régimes. Aujourd'hui, on n'a rien d'autre à notre disposition, à part l'activité physique un peu, on n'a rien d'autre pour arriver à réduire la masse graisseuse d'un individu. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Il faut rappeler aux gens que le surpoids est une maladie ou un état chronique et récidivant. Ça veut dire que si vous n'adoptez pas une stratégie de comportement alimentaire régulière, meilleure, après avoir fini d'avoir maigri, vous reprendrez votre poids. Donc, il faut se souvenir du régime agréablement pour pouvoir le refaire de temps en temps.
Mais oui, mais on aime le chocolat et on aime le gras, donc c'est
pas tout le monde, Valérie, pas tout le monde.
Ah bon ?
Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais je reconnais que on a une habitude incroyable en France, c'est que j'ai regardé les émissions de télé, certaines qui m'ont beaucoup distraite, et en particulier celle de notre ami Lignac. Je reconnais que il a pas la main légère sur les matières grasses. Hein. Ça veut dire que c'est sûrement très bon. Et quand il prépare un gâteau au chocolat ou un plat, il hésite pas avec le beurre et la crème, mais c'est la cuisine à la française.
Ah oui, non, mais on avait un auditeur qui nous a dit oui, les pâtes, le chocolat, il n'y avait pas beaucoup de légumes dans ces recettes.
Quand il met des légumes, il met des petits pois, donc c'est ça, des petits pois qui l'enrichissent avec des lardons. Mais c'est la cuisine à la française, elle est basée quand même sur les produits français. La cuisine à la crème, on la retrouve jamais autant qu'en France. Regardez par exemple dans les pays asiatiques, les sauces sont complètement différentes. C'est plutôt des jus que des sauces. Les cuisines américaines, c'est plutôt du four, même si les cuisines américaines sont grasses. En Espagne et en Italie, on n'utilise pas autant de matières grasses qu'en France, même si on utilise l'huile d'olive dans ces pays. On en utilise moins quand même.
Tiens, une question. Hier, on avait Hélène Darroze qui nous disait que la graisse de canard, c'était meilleur que l'huile d'olive pour cuisiner. Vous en dites quoi ?
Hélène a raison. Hélène a raison parce que les graisses de doigts ou de canard sont des graisses extrêmement riches en acides gras monoinsaturés. Et donc, elle a raison. Ça a été une des explications qui a été avancée pour expliquer le faible taux de mortalité cardiovasculaire dans le sud-ouest. Donc, Hélène a raison. Là où Hélène n'a pas raison, c'est sur les quantités de graisse qu'elle met à l'intérieur. Car même une bonne graisse pourra se transformer dans le corps en mauvaise graisse s'il y en a trop.
S'il y en a trop. Bon, écoutez, merci pour cette brillante intervention, Jean-Michel Cohen. Je rappelle votre livre « La peur au ventre pour que manger ne soit plus un cauchemar » qui est paru chez Plon. Et puis votre site « Savoir maigrir », vous nous disiez qu'il y avait une explosion des inscriptions. Ouais. Donc, du bon sens et des recettes équilibrées, c'est le mot d'ordre. Merci à vous et prenez
Bonne
soin
journée.
De vous, Jean-Michel Cohen. Bonne journée à vous. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler des 3 ans d'Emmanuel Macron. au pouvoir. On va parler de ses propositions pour la culture. On va parler de plein d'autres choses avec vous. C'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite.